بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. من شفاء الإسلام لسمن دانيا on avait étudié le premier verset de تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Et on avait mis en avant de ce verset deux groupes de mots qui montrent la puissance et la qudrat illimitée d'Allah Azza wa Jal. C'était biyadihi al-mulk, et on avait expliqué, comme Ibn Kathir rahimahullah, donc il le commente, que quand on dit biyadihi al-mulk, c'est toute la royauté est dans les mains d'Allah. Tout dépend d'Allah Azza wa Jal, et Allah Rabbul Izza, qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui a le pouvoir sur chaque chose. Et ce premier verset va se conclure avec une des sifat d'Allah Azza wa Jal, Qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est omnipotent, c'est-à-dire Allah Rabbul Izza est capable de tout. Donc Ibn Kathir rahimahullah, il dit qu'à travers ce verset uniquement, le croyant, subhanallah, il développe une confiance en Allah Azza wa Jal, et il réalise la puissance, le qudra, al-mulk, c'est le pouvoir. Il réalise à partir de ce premier verset le pouvoir illimité d'Allah qui dirige toutes choses et que tout est dans ses mains. On a vu ensuite Alladhi khalaqa al-maut wa al-haya, deux extrêmes. Allah a créé la mort et créé la vie. On a vu les deux tafsirs, certains parlent de la mort comme étant vraiment l'étape de la mort, d'autres commentent al-maut comme étant l'état avant la création, avant que l'âme ne soit insufflée dans un corps. Donc c'est cette étape qu'on appelle al-adam, à partir du moment où on n'existe pas et à partir du néant. Allah Azza wa Jal donne vie. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On avait rappelé, afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et le meilleur en œuvre, on avait vu les différents tafsirs des ulama qui, mashallah, se rejoignent sur le sens de akhlasu amala. Qui d'entre vous accomplit les actions les plus sincères. Et on avait, salam barakatuh, on avait expliqué la semaine dernière quelles sont les conditions pour qu'une action soit considérée comme ahsan, comme étant hasan. Parce que, ikhwan fillah, nous accomplissons tous de bonnes actions, bi'idhnillah. Maintenant, est-ce que nos bonnes actions sont considérées comme hasan? Est-ce que ce sont des actions qui sont acceptées par Allah Azza wa Jal? Ça, c'est un autre niveau. Ibn Umar, non, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il disait une parole magnifique qui montre l'humilité de Umar ibn al-Khattab, malgré la place qu'il occupe dans l'islam, étant un des plus grands savants. Certains parlent de Umar, radiallahu anhu, comme étant nusful islam, la moitié, il représente la moitié de l'islam. À 5 reprises, les avis de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ont été rejoints par la révélation. Ce qu'il avait pensé, subhanallah, la révélation est descendue exactement comme il avait pensé. C'était un visionnaire. Malgré son ilm, malgré son iman, ne parlons plus de sa foi, Shaitan Iblis fuyait lorsqu'il voyait Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Même dans, et pour montrer sa sincérité, dans les contextes les plus difficiles de la période Makki, c'était le seul qui relevait la tête avec Hamza radiallahu anhu. Il disait, voilà, j'ai pris la décision, on va faire la salah près de la Kaaba. Qui nous empêche? Et ils sont partis. Au moment de la hijra, de l'immigration, il a dit, khalas, je vais faire l'immigration. Si je le dis en créole, si on a un problème, trouvons-moi là-bas. Mais c'était exactement ça. Si quelqu'un veut que sa femme soit veuve et que ses enfants soient orphelins, qu'il me retrouve à tel endroit. Je pense que le message était très clair. Hein, le mail est arrivé, ils ont reçu le WhatsApp, le Twitter, ils ont compris qu'il ne fallait pas chercher des problèmes avec Umar ibn al-Khattab. Ça, c'est dalil ala l'ikhlas. Dans les périodes difficiles, il montre son amour pour Allah et son amour pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Malgré son iman, malgré son ilm, malgré son quwwa, la force de caractère, sa clairvoyance, Umar ibn al-Khattab dit que si j'avais la garantie qu'Allah avait accepté une seule de mes prosternations, wallahi, je serais content. Les savants disent, voyez cette citation mawquf, cette citation qui est propre à Umar ibn al-Khattab, ça nous fait réfléchir. Et quand les sahaba disent quelque chose, quand les quatre califes, lorsqu'ils avancent quelque chose, ça arrive au niveau des hadiths. Ça arrive au niveau des hadiths. Ça me dit qu'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-a'immat al-mahdiyyin et les quatre, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Donc Umar ibn al-Khattab, à travers cet avis, il était sincère, c'était pas, il a dit un proverbe pour que les gens parlent pendant des siècles, la wallah. Il dit vraiment, en réalité, que si on me donne la garantie d'aman, qu'un sijda a été agréé, accepté, tamaman, complètement par Allah Azza wa Jal, je serai heureux, je serai content. Les savants disent, voyez la quantité d'actions qu'il accomplissait, mais subhanallah, il savait que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Il était toujours à la recherche de la sincérité, de la qualité, de l'application de ses bonnes œuvres, et il espérait qu'il y aurait au moins une partie de ses bonnes œuvres qui serait considérée comme correcte, hassan de la part d'Allah Azza wa Jal. Les savants disent qu'à notre époque, et à les époques bien après Umar ibn al-Khattab, donc nous on fait partie de ces gens-là, masakin, avec les péchés que nous cumulons, et avec les actions qu'on accomplit avec Allah musta'an, parfois aucune motivation, ou alors une totale déconcentration, sans prise de conscience qu'on est devant Allah, qu'on se prosterne devant lui, on a une génuflexion devant lui, mais on accomplit et on a l'impression qu'on est les meilleurs des croyants. On a l'impression que nous, on est dans le droit chemin et c'est acquis, le Jannah il est acquis, il meurt, il est Jannati. On ne s'est jamais remis en question. On ne s'est jamais posé la question, est-ce que l'action-là est correcte? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte? Est-ce que c'est considéré comme une action sincère? Hassan. C'était là le fikar des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Quand, c'était qui le sahaba qui avait reçu le nom des 40 hypocrites? Abu Huraira? Hudhaifa, radiallahu anhu, barakallahu fikuma. Hudhaifa, radiallahu anhu, avait reçu la liste des 40 hypocrites de cette umma. Umar ibn al-Khattab, il allait le voir tout le temps, le titiller. Il voulait avoir l'info. Quelle info il voulait savoir? Est-ce que je fais partie des hypocrites? Allahu Akbar. Ça, c'était qualité de sahaba, qualité de iman. Toujours rechercher la perfection. Toujours craindre qui me dit Allah m'accepte ou ne m'accepte pas. Il y a une histoire à propos d'Abu Bakr al-Siddiq, on l'avait expliqué, on l'avait cité il y a très longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de rechercher l'authenticité de l'histoire. Allahu A'lam a vérifié donc à l'époque où il était, enfin il a toujours été commerçant, il avait vendu un coupon de tissu à une personne qui l'avait rendu. Il voulait changer. Et Abu Bakr s'est mis à pleurer. La personne était étonnée, le iman d'Abu Bakr, sa place dans l'islam, il est attristé par un problème matériel, je rends une marchandise et il pleure. Il a dit que je ne pleure pas pour le tissu, je ne pleure pas pour la marchandise. Je me suis dit que quand tu es venu acheter cette marchandise avec moi, tu étais satisfait de la marchandise. Maintenant, le lendemain, tu n'es plus satisfait. Qui me dit que j'ai bénéficié de l'agrément d'Allah Azza wa Jal et que demain Allah ne veut plus de moi et qu'Allah ne m'accepte plus, considère que je n'ai plus les mêmes qualités qui lui font plaisir. Les savants disent, vous voyez comment les sahaba se remettaient toujours en question. Et la clé, c'est ce terme, liabluakum ayyukum ahsanu amala. Il n'a jamais été dit, liabluakum ayyukum aktharu amala. C'est pas qui va faire plus de bonnes actions, mais les actions qui ont la qualité. On avait dit qu'il faut être sincère, il faut que l'action soit authentique, remonte à la source, soit découle de kalamullah, la parole d'Allah, ou de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être sincère, comme on a dit, il faut le faire uniquement pour Allah Azza wa Jal. Hada. Et on s'était arrêté à la conclusion du verset 2, wa huwa al-azizul ghafur, et c'est lui le puissant, le pardonneur. On avait dit qu'Allah Rabbul Izza clôture le verset 2 en rappelant deux sifas, deux de ses qualités. Et ces deux qualités, subhanallah, ce sont des qualités qui paraissent être opposées. Allah Azza wa Jal affirme qu'il est le puissant, donc là quand on parle de Al-Aziz, On pense à la puissance d'Allah, mais lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit Al-Ghafour, c'est le pardonneur. Donc quand on dit le pardonneur, il y a une notion d'amour et de pitié. Donc on a deux sifat qui sont dans un même verset, et un qui est dalal, qui montre la puissance, et l'autre qui montre la bonté. Pour que l'homme réalise que ton Seigneur, il est puissant. C'est le plus fort, c'est le plus grand, mais dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa... comment il est majestueux, comment il est magnifique, malgré ça, il est prêt à accepter n'importe qui d'entre vous, même si ces personnes-là ont osé désobéir au puissant, au majestueux Seigneur des mondes, mais à partir du moment où il revient, la tête basse, il demande pardon, Allah Azza wa Jal est capable de lui accorder son pardon. Les ulama, rahimahumullah, ils donnent quelques explications concernant Al-Aziz, Allah Azza wa Jal, qui est le puissant. Il y a trois déclinaisons de Al-Aziz. On parle de Izzatul Qadr, la puissance d'Allah Azza wa Jal, yani Al-Sharafu, Al-Sayadatu, Al-Fadlu. هو منفرد في الصفات الكاملة من غيره que Allah Rabbul Izzah est unique dans toutes ses qualités et il est le plus puissant, il est au-dessus de tout et personne ne lui ressemble dans ses صفات. L'autre lecture de Al-Aziz c'est Izzatul Qahri أنه عز وجل غالب لا يغالبه شيء. Allah est au-dessus de tout et personne ne peut même pas penser, na'oudhu billah, à aller à l'encontre d'Allah ou à se mesurer à la force d'Allah Azza wa Jal. En commentaire dit, فَهُوَ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يُغْلَبُ. Ça c'est une parole qui est très belle. فَمَا مِنْ جُمُوعٍ وَلَا أَجْنَادٍ وَلَا قُوَّةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَلِيلَةٌ أَمَامَ عِزَّةِ اللَّهِ. Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une force ou une union de force, il n'y a pas une armée, junoud, il n'y a rien qui peut, subhanallah, concurrencer la puissance et la force d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui peut être comparé à la force d'Allah Azza wa Jal. ذلت لعزته الصعاب. Tout ce qui peut être, tout ce qui peut nous paraître difficile, compliqué, insurmontable, ne sont rien pour la force et la puissance d'Allah. Donc vous voyez, qu'est-ce que, subhanallah, qu'est-ce que ça fait naître dans notre cœur? La lecture de cette sifat, la crainte, sans le moindre doute, mais ta'zimullah. On ressent la force. Tout à l'heure, on a vu avec le pouvoir d'Allah. Il est capable de tout. Et là, on voit comment Allah est supérieur à tout. Comment rien de rien ne peut être comparé à Allah Azza wa Jal. Hada. Et il y a également, les ulama aqidah donnent également comme définition, wa izzatul imtina' ay yamtani'u an yanalahu as-su' aw an-naqs. Jamais Allah Rabbul Izzah n'est atteint par une quelconque faiblesse ou un quelconque manquement. Ça c'est Al-Kama, la puissance totale. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Le verset de Sourate Fatir, je n'ai pas la traduction exacte, il dit que si Allah le veut, il peut vous effacer de ce dunya. يُذْهِبْكُمْ, il vous enlève. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, et Allah peut amener d'autres créatures à votre place. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, et ce n'est pas mumtani', il n'y a rien d'impossible pour Allah. Rien n'est impossible pour Allah. C'est-à-dire que dans sa perfection, il n'y a rien qui ne lui est difficile ou rien qui ne peut l'atteindre. Pour qu'on réalise vraiment le terme Aziz, la force et la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et en résumé, ils disent فَهَذِهِ مَعَانِ الْعِزَّةِ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ. Voilà donc le sens du Al-Izzah qu'Allah Rabbul Izzah a attesté pour lui-même. وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى, et qui montre عَلَى كَمَالِ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَلَى كَمَالِ صِفَاتِهِ, qui montre la force, la puissance d'Allah, qui montre la perfection de toutes les qualités d'Allah Azza wa Jal. وَعَلَى تَمَامِ تَنَزُّهِهِ عَنِ النَّقْسِ, et qui montre qu'Allah Rabbul Izzah n'a aucune faiblesse ni aucun manquement. Donc ce verset, après il y a d'autres commentaires, mais ça on rentre dans le programme du mardi soir, on commente les noms d'Allah, mais ils disent également parmi ce qui montre la puissance d'Allah Azza wa Jal, لَا يَتَحَرَّكُمْ وَتَحَرِّكُنْ وَلَا يَسْكُنُ سَاكِنٌ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ. Ça c'est des expressions, mashallah, des savants de Ahl Sunnah Jama'ah, de Ulama Al-Aqida. Pour preuve de la puissance d'Allah, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas une créature qui peut entrer en mouvement. Et il n'y a pas une créature qui peut s'arrêter de mouvoir, de bouger, illa bi iradatihi wa mashi'ati, sans son ordre et sans son mashi'a, sa volonté. Ça, c'est pas une parole vaine, c'est une parole qui nous fait réaliser que chaque créature même qui respire, ou qui s'arrête de respirer, qui expire, qui inspire, c'est avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Et ce qu'Allah a décrété, ben c'est ça qui se passe. Masha Allahu kan, wa ma lam yasha, lam yakun. Et ce qu'Allah n'a pas décrété, ça ne se passe pas. Mais quand on réalise cette tafsir, on pourrait dire, c'est définition du terme Al-Izzah. Mais assurément, on a confiance en Allah. Assurément, dans toutes les situations qu'on peut vivre, même les situations les plus complexes, on s'en remet entièrement à lui. Même s'il y a des gens qui vous menacent, qui vous veulent du tort, qui vous veulent du mal, qui veulent vous faire du tort, pardon, ben on sait que personne ne bouge sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Dans d'autres versets, « وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ » Là, ça ramènerait vers le sifat de Al-Alim. « Illa ya'lamuha » Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah n'ait une parfaite connaissance de ce qui est en train de se passer. Regardez le nombre de, astaghfirullah, milliers, millions, milliards d'arbres qu'il y a en automne. Une feuille qui tombe, c'est avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Ça, ces versets et ces explications, les hadiths, qui nous font comprendre la puissance d'Allah Rabbul Izzah. Ces descriptions, ces sifats d'Allah Azza wa Jal nous donnent une compréhension correcte et une compréhension, j'allais dire à sa juste valeur, mais ce ne sera jamais à sa juste valeur parce que ça va transiter par ma compréhension d'être humain, mais au moins tu réalises qui est ton Seigneur. Au moins tu réalises son pouvoir tout à l'heure. Tout est dans ses mains. Tu réalises sa force et sa puissance. Donc juxtaposer deux sifats qui amène vers des sens, on va dire, pas opposés, mais différents. Un, la puissance totale, et l'autre, la bonté, l'amour total, al-Ghafur. C'est pour que l'homme réalise que autant Allah est puissant et fort, et on a compris sa force, autant Allah Rabbul Izzah est capable de pardonner. Si on devait se limiter à deux versets ou trois versets concernant le pardon d'Allah, c'est Ghafir al-Dhambi wa Qabil al-Tawbi. Celui qui pardonne les péchés, et la traduction est magnifique, l'accueillant au repentir. Ce terme est rempli d'amour. Wa qabil at-tawbi, celui qui accueille la personne qui lui demande pardon. Alors que celui qui demande pardon, est-ce qu'il a fait une bonne action? Non, il a fait plein de bêtises. Et il revient vers Allah, avec un casier judiciaire, avec plein de saleté, plein de rouille sur son cœur, mais Allah l'accueille. Allah l'accueille. Ce verset de la sourate Ghafir nous fait réaliser comment est-ce qu'Allah aime voir le serviteur revenir vers lui. Le verset également, wa inni de sourate Taha, wa inni la Ghaffar, pas la Ghafir, la Ghaffar, c'est un sifat qui est kathra. Wa inni la Ghaffar liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. J'ai pas la traduction également, mais ça va de ce sens que Allah affirme que « Et je suis le grand pardonneur de celui, pour celui qui demande pardon, qui a la foi et qui accomplit de bonnes actions. » Donc ces versets nous font comprendre que on a toujours une marge, on a toujours la possibilité de revenir vers Allah Azza wa Jal. Le verset plus connu « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ » là, taqnatu min rahmatillah, à ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Alladhina asrafu ala anfusihim. Les ulama rahimahumullah, les mufassirin disent que pourquoi est-ce qu'Allah Rabbul Izzah dit, ah oui, mais on n'a pas traduit, dit à mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Traduction approximative. Dit que lorsqu'Allah dit alladhina asrafu ala anfusihim, c'est pour qu'on réalise que Allah il sait pertinemment qui a fait du tort. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a pas une personne qui peut faire un péché qu'Allah ne connaît pas. Allah, il déclare, il affirme ceux qui ont fait du tort, qui se sont fait du tort, c'est-à-dire en accomplissant des péchés. Et Allah connaît particulièrement, pertinemment, qui a fait les péchés. Donc, que ces gens sachent que la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la clémence d'Allah parce que inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, Allah pardonne l'intégralité, Allah peut pardonner l'intégralité des péchés, innahu huwal ghafur rahim, Allah est pardonneur et clément. Donc le terme ghafur nous ramène à tous ces versets, nous ramène à toutes ces explications et à cet espoir. Il y a la crainte de la puissance d'Allah, comment Allah est puissant, comment est-ce que je peux le désobéir, la crainte d'Allah, il y a également l'espoir qui reste et qui persiste dans le cœur, parce qu'Allah il est Ghafour, il est capable de tout pardonner. Donc ça nous amène à une réflexion sur ces sifat d'Allah Azza wa Jal. Wa huwa al-aziz al-Ghafour. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler de la création des cieux. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Celui qui a créé sept cieux superposés. Ma tara fi khalq ar-Rahman min tafawut, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Farji al-basar hal tara min futur, ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque. Donc, à travers ce verset, Allah Azza wa Jal prouve à la création sa puissance en demandant à l'être humain de regarder. Et ça, c'est un terme qui revient souvent dans le Coran, dans différents versets. Regardez autour de vous. La contemplation. Regardez la création d'Allah. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat. Et ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont regardé le chameau? Comment est-ce qu'il a été créé? En parlant des djibal, comment est-ce qu'ils ont été aplanis? En parlant du ciel, comment est-ce qu'il a été élevé? Il a réalisé. Regardez, afala yanzuruna, fanzuru. Regardez, analysez, n'ont-ils pas vu beaucoup de versets qui invitent l'homme à examiner tout ce qu'il y a autour de soi. Le croyant, ce n'est pas uniquement celui qui a la tête baissée dans la lecture du Coran, ou dans les du'as, dans les adhkars. Oui, il y a un moment pour ça. Le croyant, c'est également celui qui s'ouvre au monde et qui admet à la création du Seigneur des mondes et qui reconnaît la puissance d'Allah Azza wa Jal à travers la création. Et ça, c'est un cheminement très important. D'où la citation très souvent de la création d'Allah, qu'on appelle le tawhid fir-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la création. Ça, c'est des taqsim, c'est des termes, on peut dire tawhid rububiyya, il y a mille et une façons de le décrire, mais il y a souvent un fil conducteur. Quand Allah Azza wa Jal parle de sa création, en finalité, en conclusion, c'est pour ramener l'homme à la réflexion, maintenant que tu as compris, maintenant que tu as réalisé que ces montagnes, les cieux, les animaux, cette espèce, et ainsi de suite, c'est la création d'Allah, n'est-il pas temps de réaliser que « huwa al-mustahiq lil-ibad » que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, c'est ce qu'on appelle « tawhid fil-uluhiyya » des termes, des versets qui vont dans le sens de l'unicité d'Allah, mais des fois on cite l'unicité d'Allah en « Allah Rabbul Izzah » parle de son unicité en donnant comme exemple, en citant ce qu'il a créé, pour que l'homme réfléchisse, pour qu'il arrive à la conclusion que celui qui a tout créé, ben lui seul mérite d'être adoré. Comment est-ce qu'une personne peut accepter que tout a été créé par Allah et vouer le culte à autre qu'Allah? Et ça, c'est également pour protéger cette Ummah, pour protéger les croyants des erreurs des Quraysh, des polythéistes qui reconnaissaient. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Quand on demandait à Abu Jahl, à Abu Lahab, à Ubay ibn Khalaf, à toutes ces personnes, ces mécréants, ces chefs mécréants, qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Qui donne la vie? Qui donne la mort? Qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce qu'ils disaient c'était Lat, Uzza, Manat? Jamais. Ils disaient c'est Allah. Même, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ, lorsqu'ils sont dans la tempête, da'awullaha mukhlisina lahuddin, dans la tempête, dans les moments d'angoisse, le summum de l'angoisse, les cœurs s'orientent vers Allah. Donc ces mushrikines aussi, ils savaient que tout était créé par Allah. Maintenant, quand il s'agissait de vouer le culte, ils disaient, on adore Allah, mais avec ça, il y a telle chose qui est avec, il y a telle chose. Donc c'était l'incohérence. C'était l'incohérence de ces polythéistes. Et ces versets ont pour but, entre autres, de faire réaliser l'homme que voilà l'incohérence. Eux, ils reconnaissent, mais ils adorent autre qu'Allah. Donc vous, croyants, et ceux qui reviendront, gardez à l'esprit qu'à partir du moment où on a attesté qu'il y a un seul créateur, ben c'est ce créateur et personne d'autre qui mérite d'être adoré. Donc là, Allah Rabbul Izzah parle de la création Sab'a samawatin tibaqa. Bismillah. Si on retrouve le verset, hada. Donc, Ibn Kathir, rahimallah, dit également que voilà, Allah invite l'homme à méditer sur, et voyez, pour que l'homme réalise vraiment qu'il ne connaît rien de la création. Pour qu'il y ait encore plus d'humilité, et qu'ils se sentent encore plus amoindris devant la puissance d'Allah, Allah nous invite, dans ce verset, nous invite à réfléchir sur la création des sept cieux. Alors qu'on est, on n'est même pas capable de toucher un ciel, on peut juste le contempler de loin, et Allah, lui, il te donne deux informations que tu ne connaissais pas. Premièrement, que tu ne connaissais pas dans le sens que l'homme ne peut pas savoir par l'expérience. L'expérience, c'est-à-dire par les sens. On ne peut pas voir, on ne peut pas entendre, on ne peut pas toucher, et ainsi de suite. Première information que l'homme ne connaît pas et qu'il apprend par le wahi, par la révélation, sab'a, samawat, qu'il n'y a pas un seul ciel, il y en a sept. Et du coup, l'homme réfléchit, dit subhanallah, Allah est en train de me demander de réfléchir sur la création des sept cieux, et je me rends compte que je ne savais même pas qu'il y avait sept cieux. Ça, ça permet à l'homme de réaliser qu'il n'est rien et qu'il doit tout à Allah et qu'il ne connaît rien au fait de la création. Et ce verset, ce serait une belle leçon d'humilité pour ces scientifiques qui prétendent tout connaître et qui, na'oudhu billah, au bout de leur réflexion primaire et primate, ils arrivent à une conclusion qu'il y a dame nature. Dame nature, je connais dame nature, ils vendent des trucs bio. Vous pouvez y aller, c'est bon. Mais dans le sens de dame nature qu'ils disent, où il y a, où tout existe, c'est du hasard, ou qu'on connaît la conscience, na'oudhu billah. Cette intelligence qu'Allah leur a accordée, cette capacité à décrypter la biologie, l'astronomie, la physique, et ainsi, bref, toutes ces sciences, et tout ça comme natija, résultat, il arrive à dire que, ben en fait, ça c'est un hasard, c'est le Big Bang, et ainsi de suite, tout ça qui fait que voilà, il y a eu des choses, mais non, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de Dieu. Na'oudhou billah. Donc ces personnes, s'ils lisent ce verset, ils réalisent que Dieu c'est Alladhi, entre autres, Alladhi khalaqa sab'a samawat. Déjà, ils se prennent une bonne claque, disent, on ne se serait jamais demandé, on ne se serait jamais posé la question, est-ce qu'il existe, est-ce que le ciel existe vraiment? Parce que la notion de ciel, scientifiquement, n'est pas prouvée. Et en plus, le verset nous informe qu'il y en a sept. Dernière découverte qu'ils ont fait, ils ont envoyé, je ne sais pas, des ondes un peu spéciales, je ne sais pas comment on appelle ça, un satellite. Ce n'est pas un satellite, un truc. Ils découvrent des reliefs sur Pluton. Et Pluton, il était victime du racisme. Hein. On l'a exclu du système solaire. Ça arrive, d'accord. Et comme il est très loin, il ne peut pas réclamer ses droits. Et là, ils sont en train de redécouvrir Pluton. Ils se disent qu'on ne s'imaginait pas qu'il y avait comme des tempêtes d'azote. Il y avait des reliefs et tout. Et les scientifiques sont ébahis. Et ils reçoivent les photos à raison de, comment on appelle ça, 2 kilosecondes. 2 kilo-octets, je ne sais pas comment on dit ça. Parce que vu la distance, c'est plus loin que Réunion Maurice, comprenez. Et donc, c'est 2 kilos machin secondes. Et peu à peu, ils ont des brides d'informations, et du coup, il n'arrête pas d'être surpris. L'homme découvre une planète qui est dans notre système solaire. C'est à nous, ça. D'accord? Et vous savez, il y a combien de systèmes solaires? Allahu Akbar. Il y a combien de systèmes solaires? Il y a, et la Lune, pas la Lune, la Lune encore, c'est un enfant. Le Soleil, ça représente, c'est comme, en fait, c'est comme une bille, c'est rien du tout par rapport à UX système solaire. Et nous, qui sommes-nous pour dire que tout ça, c'est le hasard? Quel takabbur! Et comment Shaytan a joué? Comment Shaytan a pu, subhanallah, entraîner ces personnes qui pourtant ils ont un coefficient intellectuel théoriquement supérieur, mais cette intelligence ne les a servi à rien. Et on va voir dans un instant, peut-être pas dans un instant, mais peut-être plus tard, lorsque. Oui, dans. لو كنا نسمع أو نعقل. Ma kunna fi ashabi sa'ir, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ça, c'est Ahwal et Ahlul Jahannam. Le verset 10, hein, on saute un petit peu. Les gens de l'enfer, ils regrettent si seulement on avait écouté, si seulement on avait réfléchi. Et Ibn Kathir dit que, voyez, la réflexion, c'est pas forcément être très intelligent, cumuler plein de savoir. L'homme intelligent, c'est celui qui, avec le peu de connaissances qu'il a, ben ça lui permet de voir la vérité. Ça lui permet d'être guidé vers le droit chemin. Alors qu'il y en a qui cumulent des connaissances, et ces connaissances-là ne lui apportent rien. Et bien au contraire, comme ces gens-là qui arrivent à dire qu'il n'y a pas de Dieu, na'oudhou billah. Donc déjà, ce premier verset, Allah nous demande de réfléchir. Et il nous annonce que Allah, Rabbul Aziz al-Ghafur, Alladhi khalaqa sab'a samawat intibaqa, celui qui a créé sept cieux. Donc première information, on ne savait pas qu'il y avait sept cieux. Et deuxième information, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa, ça veut dire superposer. أي طبقة بعد طبقة les uns sur les autres. Après Ibn Kathir, rahimahullah, il explique les divergences entre les savants quant à savoir est-ce que les cieux sont reliés ou ils sont séparés, et dit l'avis majoritaire et c'est que les cieux sont vraiment séparés. Et une des preuves, c'est le hadith de Al-Isra, non Al-Mi'raj, le hadith du Mi'raj, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte aux cieux avec Al-Buraq, à chaque ciel, istidhan, il demande, il cogne. Donc déjà le ciel, ce n'est pas que du gaz, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une image qui est projetée, qui donne une couleur, c'est quelque chose de réel, de concret. Il demandait l'autorisation avec les anges qui demandaient qui cogne à la porte du ciel, et il pouvait franchir le ciel. Et là, le prophète sallam rencontrait des anbiya au ciel, et en montant, ils arrivent ensuite. Après, là, il n'y a pas de précision. Combien de temps, combien de distance, wallahu a'lam. Ils arrivent ensuite au second ciel et au troisième. Ce qui prouve que les cieux sont dissociés. Et on irait même plus loin. C'est-à-dire que dans chaque ciel, il y a un monde. Un monde, un alam de malaïka. Et les habitants, les anges, malaïka, c'est-à-dire les anges du premier ciel ne sont pas les anges du second ciel, ni du troisième, ni du quatrième, ainsi de suite. Dalil ala dalik, la preuve, c'est de le tafsir du verset, Allah Akbar, le verset ne me revient pas, qui décrit le akhira, la résurrection. C'est une fin ou un début de juz de Sipara. Hey, ça reviendra, Inch'Allah. Vous l'avez ? Quelqu'un murmure ? On verra, Inch'Allah. Dit que le jour des comptes où les anges vont descendre des cieux, où ils vont se réunir jusqu'à ce qu'Allah lui-même descend et juge les gens. Et en commentaire et en description à travers les hadiths, il est décrit qu'il y a tout d'abord les anges du premier ciel qui descendent. Et ils sont plus nombreux que les ins et les djinns qui ont été créés depuis Adam jusqu'au Qiyam. Ensuite, ils se mettent en cercle autour de la création, de tous les êtres humains. Ensuite, il y a les anges du second ciel qui descendent. Ensuite, ils sont deux fois plus nombreux que les anges du premier ciel. Il a réalisé. Les savants déduisent à partir de ce hadith, ce texte également, que chaque ciel est habité. Et plus on monte dans les cieux, plus les cieux sont vastes et plus peuplés. Hada. Il y avait d'autres textes encore, mais là, ça ne nous revient pas. Donc, tibaqa. Donc, deux informations qu'Allah nous donne, qu'il y a sept cieux et que ces cieux sont superimposés. Ma tara. Et Allah Azza wa Jal maintenant nous informe la perfection de cette création. La perfection d'une création que nous ne pouvons même pas contempler réellement, parce que nous ne faisons que le regarder de très très loin. Ma tara fi khalq ar-Rahman min tafawut, sans que tu vois de disproportion en la création du miséricordieux. Ay laysa fi ikhtilaf wala tanafur wala mukhalafa la création wala aib wala naqs, il n'y a aucun manquement. Les cieux, la création des cieux est parfaite, wala khalal. Ensuite Allah invite l'homme à regarder une seconde fois, farji al basar hal tara min futur, ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque, et la suite, puis retourne ton regard à deux fois, le regard te reviendra humilié et frustré, pour que l'homme réalise que la création des cieux, c'est une création qui est parfaite. Et dans d'autres versets, il dit, la khalqu as-samawati wal-ardi akbaru min khalqi an-nas. La khalqu as-samawati wal-ardi, la création des cieux et de la terre, en ce sens, c'est une création encore plus grande, encore plus complexe, que la création de l'homme. Aujourd'hui, les scientifiques, ils sont admiratifs sur le fonctionnement du corps humain. Lorsqu'on analyse une cellule, on est arrivé il y a une dizaine, quinzaine d'années à décrypter le code génétique. Ensuite, c'est arrivé le truc qui tourne en spirale là, l'ADN. Et on n'arrête pas de découvrir la puissance du corps humain. Hein, une personne qui se blesse, comment est-ce que ça cicatrise, comment est-ce que le sang il va sécher au contact de l'oxygène, ça va faire une petite coque qui va protéger le corps des bactéries, des microbes, et ensuite la peau va se refermer. Est-ce que c'est toi qui pilote ? Est-ce que c'est toi qui demande ? Quand quelqu'un, il écorche la portière de ta voiture et que tu vas chez le garagiste, c'est une demande que tu fais. C'est pas que quelqu'un écorche la portière de ma voiture. Moi, quelqu'un, il a écorché ma voiture depuis 3 semaines. Mais tous les matins, je me réveille, je crois que ça va se cicatriser. Ça ne se cicatrise pas. Ça reste comme ça. Même si j'appelle le directeur de Audi ou de BMW, je dis, bah, il vient, fais doigt, souffle dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut tirer, changer, et ainsi de suite. Fais le travail. Subhanallah, vous vous coupez, vous tranchez le doigt. Après un certain temps, sans que vous fassiez une demande avec accusé de réception, mashallah, ça se cicatrise, la peau retrouve son apparence et parfois il n'y a même plus de traces. Vous rappelez que je m'étais coupé là une fois, mais il n'y a plus rien. Ça c'est la perfection de la création d'Allah. Et comment, subhanallah, si on devait parler de la création de l'être humain, si on pouvait parler de la création, subhanallah, juste de l'œil, ajib, qui nous... Ni'ma, plus grand ni'ma qu'Allah peut accorder à une personne sur le plan physique. Et vous savez que l'iris de chaque être humain lui est propre. Il n'y a pas deux êtres, c'est bien l'iris dont on parle, hein? Il n'y a pas deux êtres humains dans le monde, même des jumeaux, qui ont le même qui ont le même iris. C'est-à-dire combien de créatures, combien d'êtres humains ils sont venus depuis Adam jusqu'au Qiyama, ben, l'iris est toujours différent. Et ça c'est dalil ala kamal qudratillah, la preuve de la perfection de la création d'Allah. Deux personnes ne peuvent pas avoir même empreinte digitale. Et ça c'est ajib encore. C'est-à-dire, ce dessin-là, c'est propre à toi. C'est du sur-mesure. Même si tu as un fils, même si tu as un frère jumeau, il n'aura pas les mêmes empreintes que toi. Tout ça, ça montre que Allah, ça c'est la création d'Allah. On n'arrête pas de découvrir la grandeur d'Allah à travers sa création, à travers la création, pardon, de l'homme, de l'être humain. Maintenant, Allah Rabbul Izzah nous dit que la khalqu as-samawati wal-ard akbaru min khalqi an-nas. La création des cieux et de la terre, c'est plus grand encore, c'est plus fort, c'est plus puissant, on pourrait dire, c'est plus complexe encore que la création de l'homme, de l'être humain. Tout ça, ça nous fait réfléchir que wallahi, Allah, notre Seigneur, est puissant, il est au-dessus de nous, il est parfait, et nous, vraiment, on n'est rien. On est rempli de défauts et on ne connaît rien. Et on a grandement besoin donc de s'accrocher à ce qu'Allah nous a dit. Parce que si on commence à passer en mode pilotage automatique, à naviguer dans la vie en freestyle, je vais comprendre les choses moi-même, on est perdu. Parce que ce monde est tellement vaste, la création est tellement complexe et nous on est tellement ignorants. Allah nous fait descendre Hablullah, la parole d'Allah. Sa révélation, qui est commentée par la parole du Prophète, il nous demande wa'tasimu bihablillah, accrochez-vous, jami'a tous, voilà, tafarraqu, restez accrochés, ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas, ila ghayri dhalik. On comprend que ça, c'est salvateur pour nous. On s'accroche à ce qu'Allah nous a donné, on sera de le droit chemin. Vous voyez, quantité de philosophes qui ont réfléchi, qui ont cogité, qui sont allés très loin, très 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 loin de leur réflexion et qui en finalité se sont égarés du droit chemin. Et vous voyez ces scientifiques qui sont partis très loin de leurs analyses, de leurs expériences et en finalité ils ont abouti à des thèses qui vont à l'encontre de la haqq, de la vérité. Donc nous avons qu'à suivre ce qu'Allah nous a révélé. Parce que ce qu'Allah nous demande d'analyser, de regarder, de re-regarder, on n'est même pas capable de le faire. Tellement c'est haut, tellement c'est parfait, mais nous avons conviction que oui, c'est parfait et la création d'Allah, elle est parfaite, qui prouve la perfection du Créateur, la perfection d'Allah Azza wa Jal. Donc, farji' al-basara hal tara min futur. Ensuite, donc ça on a anticipé, farji' al-basara karratain, yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Hada. Ensuite, on a combien, 38? S'arrête là ou bien encore 2 minutes parce qu'on est dans les cieux. Enfin, on parle des versets qui décrivent le ciel et on peut terminer avec ça. Donc après qu'Allah Rabbul Izzah ait rappelé à l'homme que la création des cieux est parfaite, maintenant Allah Rabbul Izzah va nous parler de la beauté du ciel. Et les savants disent, regardez usloub al-Qur'an. Tout d'abord, Allah te fait réaliser que le ciel, la création du ciel, elle est parfaite. Maintenant, Allah va t'expliquer comment le ciel est beau, comment le ciel est magnifique. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes. Le terme utilisé par Le Coran, c'est Masabih. Est-ce que le terme Najm n'était pas connu par les Arabes à l'époque? Ben jamais. Mais c'est vraiment pour qu'on comprenne que ces étoiles, ça embellit le ciel. Regardez, vous avez réalisé maintenant que le ciel est parfait. Maintenant, regardez le ciel. Regardez comment il est beau. Regardez comment Allah l'a élevé et comment Allah l'a rendu illuminé. Wa laqad zayyana et azayyana, zayyana yuzayyinu, c'est rendre beau. Azina, azina avec un ya, d'accord. Azina, c'est la beauté. Wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes. Et c'est bien sûr le ciel le plus proche, c'est le ciel que nous voyons. Et bien sûr, on ne voit pas les autres cieux. Le premier ciel, nous le voyons, mais aucun homme ne pourra jamais l'atteindre. Quelle que soit la fusée, quel que soit le moyen, et ainsi de suite, le seul moyen d'aller au ciel, c'est... Il y a deux moyens, en fait. Soit la mort, soit... Hein? Les malaïka. Je crois que vous avez dit Yamada. J'ai dit non, Yamada ne va pas au ciel. Soit la mort, soit Al-Buraq. Mais comme personne n'a accès au Al-Buraq, c'est uniquement quand on meurt que l'âme monte aux cieux. D'accord? Donc, voilà, quand des ayens le chemin à Dunya, bimasabiha, avec des lampes, et en commentaire, c'est dans la traduction, c'est qui est des étoiles. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Je trouve ce qu'on a marqué ça. Donc nous avons fait des projectiles pour lapider des diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ibn Kathir dit وَلَمَّا نَفَا عَنْهَا فِي خَلْقِهَا النَّقْصِ بَيَّنَ كَمَالَهَا وَزِينَتَهَا. Lorsqu'Allah est expliquer à l'homme que le ciel est parfait, qu'il n'y a pas un défaut, un manquement, Allah Rabbul Izzah explique comment le ciel est beau, comme on l'a dit, c'est Ibn Kathir. Il dit que وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Ce qu'il y a autour des étoiles, ben, c'est ces lumières-là, ce que nous voyons, ils sont lancés donc par, je raccourcis le tafsir Ibn Kathir, ils sont lancés par les malaïka pour chasser les shayatines. On parle de projectiles. Nous avons fait des projectiles. Ibn Kathir dit, ce ne sont pas les nujum, ce ne sont pas les étoiles qui sont des projectiles. Parce que les étoiles, en fait, ce sont des planètes. C'est d'autres choses qu'Allah donne la possibilité aux anges de lancer, on pourrait traduire par des boules de feu ou autre chose, et qui donc ont pour objectif de chasser les shayatins qui essaient de s'approcher du premier ciel. Eux, ils ont la possibilité. Qui essaie de s'approcher du premier ciel. Nous avons fait des projectiles pour lapider des diables. Et Allah annonce quelle sera leur destination et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Et c'est donc cette humiliation pour eux de ce monde. Et le jour de Qiyama, voilà leur châtiment, c'est la fournaise, c'est le Jahannam. Et les Ibn Kathir et d'autres Mufassins disent qu'à travers ce verset, nous voyons là aussi, c'est là également l'expression de la puissance d'Allah, et sa puissance se manifeste sur terre, cette puissance se manifeste dans la création des cieux, et cette puissance se manifeste au-delà des cieux, dans ce qui peuple les cieux et ce qui se passe dans le monde de l'invisible, un monde qui cette fois-ci ne nous est pas du tout accessible, le monde des shayatines qui monte aux cieux, et là aussi le pouvoir d'Allah, il y est. Il n'y a pas un endroit de la création où il n'y a pas le mulk d'Allah, la puissance d'Allah qui ne s'exprime, que même ces créatures qui ont pourtant une puissance extraordinaire, mais jamais ils ne peuvent tromper Allah. Allah Rabbul Izzah les châtie, Allah les chasse des cieux au moment où ils essaient d'épier, ils essaient d'avoir les informations, et Allah annonce à l'homme quel sera le châtiment de ces shayatines. Et là, en commentaire, on pourrait rajouter que si ce verset nous décrit quel sera le châtiment de ces shayatines qui vont chercher les nouvelles, et si nous allons suivre ces nouvelles, est-ce qu'on ne peut pas craindre d'avoir le même châtiment et la même mise en garde concernant l'au-delà? Sachant que ces shayatines, ils vont essayer d'entendre, parce que lorsqu'Allah décrète quelque chose, les anges transmettent l'information. Et là, les shayatines essaient d'écouter, essaient d'épier. Et Allah les chasse. Allah ordonne aux anges de les chasser du ciel. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah les laisse monter aux cieux? C'est comme ça qu'Allah a organisé les choses. C'est la sunna d'Allah. Pour qu'il y ait quand même des shayatines qui puissent avoir quelques informations et qui vont ramener et que leurs informations seront une source de fitna pour les hommes. Et voir est-ce que les hommes vont suivre ces fitna ou ils vont suivre le iman. Est-ce qu'ils vont suivre ces fitna en des gens qui vous annoncent des choses que vous n'aviez pas prévu de dire? Vous arrivez à la personne qui dit, je sais pourquoi tu es venu, Issa. Tu es venu parce que tu as tel problème, parce qu'il y a telle chose, telle chose. Il dit, waouh, le gars, il est costaud, il y a du niveau, là. Il connaît déjà, je ne lui ai même pas dit, et tout. Information qui vient des chayatines. Maintenant, si tu te dis que, ouais, il connaît, il va peut-être m'apporter la, la solution à mes problèmes. Et donc, on va suivre. Ben, en fait, tu ne suis pas cet homme. Tu suis l'homme et tu suis, d'une certaine façon, les shayatines qui amènent les nouvelles. Et ces shayatines qui, dans le verset, prouvent qu'ils sont maudits par Allah. Et quelles seront les destinations de le Jahannam, le jour de Qiyam? Donc, est-ce que tu veux suivre cette chaîne? Parce qu'au bout de la chaîne, il y a ces shayatines. Et toi, tu es comme le petit qui t'accroche, qui essaie d'avoir les informations, qui essaie de mener ta vie en fonction de cela. Donc, mise en garde, ça c'est personnel. On pourrait dire que ce verset nous met en garde également contre le fait d'aller chercher des informations auprès de ce genre de personnes. Le mu'min doit se fier à Allah Rabbul Izza faqad et ne jamais prendre de ce genre de akhbar, ce genre d'informations. On va s'arrêter à la pause ce soir, inshallah. Parce qu'après, il y a la description du Jahannam, wa lilladhina kafaru bi rabbihim 'adhabu jahannam. Et là, il y a 3 ou 4 versets. Jusqu'à fa'atarafu bidambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Ça nous fait 4 ou 5 versets qui parlent de les, des personnes qui sont dans le Jahannam et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, comment est-ce qu'ils réagissent et quelle est leur situation. Et après, l'apaisement, comme toujours dans le Coran, il y a la mise en garde et ensuite l'apaisement, l'encouragement. Ça c'est pour nous. Inch'Allah, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun karim kabir. Ceux qui ont la crainte d'Allah, même dans l'invisible, celui qui a la crainte d'Allah en toutes circonstances, fis sirri wal alan, devant les gens tu as la crainte d'Allah, mais quand les portes se sont fermées, quand la lumière est éteinte, quand personne ne te voit plus, tu as toujours la crainte d'Allah dans ton cœur. À pour cette catégorie de personnes, il y a telle récompense et ça on verra inch'Allah la prochaine fois qu'Allah Rabbul Izzah a la possibilité de comprendre ces quelques paroles et que ces paroles pénètrent nos cœur et que nous, mashallah, nous en ressortions grandis spirituellement et on réalise la puissance d'Allah Aziz. On réalise également comment Allah est pardonneur, que nous devons tous avoir espoir d'obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. On réalise la perfection d'Allah de sa création et qu'on voit la création d'Allah en pensant à la grandeur d'Allah. Ikhwani fillah, n'oubliez pas qu'il nous reste quelques jours. On est vendredi, donc on est le 3, il me semble, ou 4, 3 ou 4 de l'Hijja. Et que le Eid al-Adha aura lieu, Inch'Allah, jeudi, et que d'ici là, dans la mesure du possible, il est mustahab de jeûner. Yaoumiyyan, dans la mesure du possible, on jeûne tous les jours, jusqu'au jour de Arafah inclus, c'est-à-dire jusqu'à mercredi. Le plus important, le point culminant, c'est jeûner le 9e. Parce qu'en jeûnant le 9e, le Prophète m'a dit qu'il a espoir qu'Allah pardonne les péchés de l'année écoulée et de l'année suivante. Mais au-delà du jeûne de Arafat, du Yom Arafat, jeûner chaque jour de ce mois de Dhul-Hijja, ça nous met dans une situation favorable. J'allais dire un ballotage favorable. C'est-à-dire, parce qu'on n'atteindra jamais un haut niveau. Mais au moins, on a montré à notre Seigneur que j'ai jeûné ces 9 jours. J'ai fait, parce que, mettre en pratique ton ordre, oh Allah, et avec conviction que le Prophète m'a dit que les actions les plus aimées par Allah ce sont celles qui sont accomplies durant cette décade, ben voilà ce que je peux faire de mieux, ya Rabb. Je me réveille, je fais le tahajjud, je me réveille, je prends le suhur, je jeûne, je fais mes prières en congrégation, je donne le meilleur de moi-même, même si ce n'est pas un très haut niveau de spiritualité, mais voilà tous les efforts que je peux faire. Et l'effort le plus complet qu'un homme peut faire, c'est de jeûner. Parce que depuis le suhur jusqu'au iftar, tu es en ibadah, tu es en imtina'. Tu te retiens, tu te contrôles pour Allah. Chaque fois que tu as faim, tu as soif, tu es fatigué, tu prends conscience que tu es en état de jeûne. C'est la meilleure des choses qu'on peut faire pour montrer notre envie de nous soumettre à Allah Azza wa Jalla. Donc on essaie de jeûner. Les savants, il y a une parole magnifique. Les savants, ils expliquent aussi que, voyez, il y a deux choses exceptionnelles, deux rétributions hors du commun durant cette décade qui nous fait réaliser que cette décade, elle est hors du commun. La première de ces actions, c'est le saum de Arafat, le pardon d'une année de péché écoulé et, Inch'Allah, de la prochaine année. Subhanallah, c'est inimaginable. Réaliser comment Allah peut pardonner autant uniquement pour un jour de jeûne, mais ça, c'est quelque chose qui est khas, spécifique à cette décade. Et la deuxième action qui est hors du commun, qui est difficilement concevable, c'est lorsque le Prophète dit Il décrit que pour chaque poil de l'animal que tu as sacrifié, on parle du Udhiya, il y a une récompense. Nous avons expliqué ça à nos élèves mercredi, quand on faisait les maslas sur les Udhiya. Je dis que si quelqu'un s'amuse à arracher une quantité de poils d'un cabri ou d'un mouton, et dit après aller dans un coin, il compte combien de poils il y a. Ben, vous en avez pour deux jours, trois jours. Centaines de milliers uniquement dans une poignée. Chaque poil, tu vas compter. Maintenant, essaie de tondre un mouton, Kamil, et si on a autant perdre, allez compter combien de poils il y en a. Ou un cabri, ou un bœuf. Mais cette métaphore n'est pas une métaphore, c'est pas juste une parabole pour qu'on s'exclame. C'est que autant vraiment qu'il y a de poils chez l'animal, Allah t'accorde autant de récompenses. Donc c'est vraiment une rétribution de l'extraordinaire. Une rétribution qui dépasse l'entendement. Les savants disent que ces deux rétributions, le pardon exceptionnel et la rétribution exceptionnelle, nous font réaliser que nous vivons une décade hors du commun et que ce qu'Allah est capable de nous pardonner, de nous accorder, c'est énorme. Donc à nous vraiment de mériter et de faire le maximum de bonnes œuvres. Je vous souhaite à tous Eid al-Adha Mubarak. Ce sera jeudi prochain, on ne se verra pas d'ici là. Et vendredi, le lendemain, ce sera le deuxième jour, donc on ne va pas faire d'Ajz Tafsir. On se retrouvera, Inch'Allah, le vendredi après, Inch'Allah. Wa tawfiqillah billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Et n'oubliez pas de lire Tabarak Alladhi, bien sûr, avant de dormir, en méditant sur les versets qu'on a déjà parcourus. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Zakum khair.